Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur le 87.7 FM Radio Campus Amiens et vous écoutez votre quotidienne d'actualité locale et associative Info Club Sandwich. Aujourd'hui, Lisa reçoit Antoine Grillon, directeur de la Lune des Pirates, afin de parler de la programmation du festival Minuit avant la nuit.
Aujourd'hui, je reçois Antoine, directeur de la Lune des Pirates. Il est venu nous présenter le programme de Minuit avant la nuit qui aura lieu du 6 au 9 juin prochain, toujours au Parc Saint-Pierre.
Tout à fait, entre autres, et puis avec quelques nouveautés aussi cette année que j'aurai l'occasion de détailler.
Rappelle-nous justement un peu ce festival, il existe depuis combien de temps maintenant ?
Alors, la première édition du festival, c'est 2018. Mmh. On a fait cette première édition suite aux 30 ans de la Lune des Pirates, l'anniversaire de la Lune des Pirates, qui s'était déroulé également au Parc Saint-Pierre en mai 2017. Et ça nous a donné l'idée de créer Minuit avant la nuit. Donc en mai 2018, il y a eu deux éditions, 2018-2019. Puis le Covid est passé par là, on a annulé 2020-2021 pour revenir en 2022. Et donc là, ça sera la cinquième édition du 6 au 9 juin 2024.
Et comment s'est passé Minuit avant la nuit 2023 ?
Minuit avant la nuit 2023 était une très bonne édition. Il y avait, il y avait plusieurs choses à corriger, notamment d'un point de vue organisationnel et logistique. Par rapport à l'édition 2022 qui avait été elle-même un beau succès en termes de fréquentation. Et 2023, on a eu à la fois le succès en fréquentation et à la fois en termes d'organisation. On a su aussi rebondir et ajuster là où il fallait ajuster par rapport aux éditions précédentes, notamment dans la circulation des publics, les temps d'attente à réduire, etc., etc. Donc on reste vraiment sur une édition qui était très réussie. Et bah, l'idée, c'est d'être au moins aussi bon en 2024, si ce n'est même encore un petit peu mieux à quelques endroits.
Justement, cette année, on commence la soirée d'ouverture à Argueuf, au Cable Park, avec Adam le Mutant et Dog Park. Alors pourquoi Argueuf ? Pourquoi le Cable Park ? Pourquoi t'as choisi, enfin vous avez choisi cet endroit ?
Ouais, alors on aime bien déjà, premièrement, essayer de créer la surprise sur ce premier soir. L'année dernière, on avait proposé la venue d'une péniche. Et ça nous avait permis de créer un premier soir un peu inédit, un peu original. Voilà, et on sait maintenant, on a de plus en plus d'habitude sur le parc Saint-Pierre avec la configuration du lieu qui est globalement un peu similaire d'une année sur l'autre. Et ce jeudi, c'est un peu un petit terrain de jeu un peu nouveau qu'on expérimente chaque année pour créer une sorte de warm-up du festival qui peut évoluer d'une année sur l'autre. Et donc le Cable Park, cette année, ça nous a paru cohérent. Déjà, on reste dans la continuité de ce qui fait vraiment l'ADN de Minuit avant la nuit, c'est-à-dire nous, ce qu'on appelle le côté RBO, donc vraiment la vie autour de l'eau, de la Somme, des ortillonnages, et puis toute la végétation qu'il y a autour. Donc le Cable Park est vraiment niché en plein cœur de tout ça. Donc on reste finalement dans une forme de continuité. Et puis il y a aussi l'idée d'un petit clin d'œil par rapport au JO cette année et de remettre un peu de sport. Et l'Amiens Cable Park, c'est aussi un endroit où on fait beaucoup de sport, où ça pratique le wake. Et voilà, on trouvait ça plutôt sympa. Et l'endroit s'y prête assez bien pour faire une première journée assez chill. L'idée, c'est pas de faire une immense fête non plus. Mais voilà,
d'avoir un beau cadre pour commencer ce festival.
Un beau cadre, un beau coucher de soleil parce qu'il fera très beau.
Ouais.
Et de la musique un peu indie, cool. Voilà, ça sera super.
Avec la bedroom pop de Adam et le Mutant.
Exactement.
Première édition en 2018, du coup, avec Eddie Defretto en artiste émergent. Ouais. Et là, il revient en tête d'affiche. Alors, pour cette année, du coup.
Ouais, Eddie Defretto, il a été. Il y a une histoire quand même avec nous. Déjà, il a été programmé en décembre 2017 à la Lune des Pirates.
Donc, d'accord.
Il était vraiment en artiste émergent.
Ouais.
La date à la Lune des Pirates c'était remplie assez rapidement, quand même. À l'époque, c'était un co-plateau avec un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Voyou. Suite à un peu cet engouement qu'il y a eu sur cette date à la Lune des Pirates, on s'est dit on va tenter le coup sur un format un peu plus gros avec Minuit avant la nuit, donc en juin 2018, donc 6 mois après. Et ça a été calé plus comme un artiste que nous on appelle middle, on va dire, donc ni tête d'affiche ni émergent, un peu entre les deux. Mais il se trouve que la notoriété, elle a fait que se poursuivre et que grandir. Et au moment où est venu le festival, c'était une tête d'affiche en fait. Ouais. Et les gens étaient vraiment venus pour le voir. Il avait fait quelques semaines avant l'événement le JT avec Laurent Delahousse. Enfin voilà, donc quand même notoriété, médiatisation au top. Et voilà. Et là, et bah, il revient effectivement, donc bah, 6 ans après, sur Minuit avant la nuit. Là, pour le coup, effectivement, il n'y a plus de débat. C'est vraiment une des principales têtes d'affiche du festival cette année. Et son nouvel album est super d'ailleurs. Que je vous invite à découvrir.
Justement, je voulais parler un peu des genres, parce qu'il y a un peu de tout quand même, c'est varié à hein, Minuit avant la nuit. Comment vous faites votre sélection d'artistes ? Est-ce que vous avez un quota imposé par genre musical ?
Non, on n'a rien imposé du tout. Tout ce qu'on veut, c'est à la fois fédérer, rassembler un maximum de public. Mais qu'on ait une certaine lisibilité, une compréhension par ce même public de ce qu'on fait. Donc c'est une grande équation qu'il faut résoudre chaque année. Mais finalement, je dirais que le point commun de tous ces artistes, c'est qu'il y a une belle part qui est laissée à l'audace et vraiment à la singularité, au parti pris artistique très, très fort. Et l'idée aussi, c'est d'être vraiment dans une programmation qui soit ancrée dans son temps, et en l'occurrence en 2024, avec des artistes qui, voilà, qui sont vraiment qui ont des actualités aujourd'hui et même futures. Et voilà. Et une fois qu'on a dit ça, après finalement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de courants musicaux différents, mais finalement, on retrouve d'une année sur l'autre pas mal de musique pop. Ça reste un festival très pop. Il y a un peu de rock. Il y a un peu de rap, de musique urbaine, il y a un peu d'électro, voilà, mais ça tourne quand même beaucoup autour de ces esthétiques-là, qui sont des esthétiques très musique actuelle et très, très écoutées hein, actuellement.
Pour ce qui est des, pour ce qui est des nouveautés, vous l'avez fait déjà l'année dernière, mais il y a des balades musicales du coup, qui sont organisées aux Ortillonnages. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce concept ?
Alors ouais, c'est même au-delà de l'année dernière. En fait, ça a toujours existé dans le cadre de Minuit avant la nuit.
Ouais.
C'est balade musicale en barque. Ça fait partie vraiment de l'ADN de ce projet. Et moi, j'aime dire que Minuit avant la nuit, c'est à la fois une jauge de 5-6 000 personnes, mais c'est aussi à la fois des jauges de 40 personnes. Et à travers ça, on raconte aussi l'histoire de l'expérience spectateur qui est très important pour nous, c'est-à-dire de faire en sorte que le public, quel que soit l'endroit, l'horaire, quand il vient sur Minuit avant la nuit, il va vivre un truc. Et il va vivre une expérience qui est assez unique. Et là, on va vraiment au bout du concept avec ces balades musicales en barque. Donc le public monte dans des barques de 12 places. Et ils arrivent sur un îlot au milieu des Ortillonnages. Donc les départs se font cette année au port à fumier à Camon. Et ils assistent à un concert secret, donc 40 personnes par 40 personnes. Il y a 4 barques qui partent. Concert secret d'un artiste qui découvre vraiment à l'instant T. Et c'est vraiment une aparté bucolique dans le festival. Donc ça, on part 2-3 heures et puis après les publics peuvent revenir et aller vraiment sur la fête au Parc Saint-Pierre. Et ce partenariat, il est possible grâce à un partenaire qui est très important pour nous, qui est le Festival International des Jardins Hauts-de-France, qui est vraiment un partenaire majeur pour Minuit avant la nuit et que je remercie parce que grâce à eux, bah, on peut faire ces petites excursions qui sont très sympas et très attendues aussi par le public parce que c'est complet.
À chaque fois,
à chaque fois et très rapidement. Et
là, en même temps, c'est super chouette. Tu sais même pas qui tu vas voir et tu arrives sur une petite île au milieu de rien et de tout en même temps.
Si les gens sont un tant soit peu curieux et aiment faire des expériences, c'est parfait pour eux, effectivement.
C'est un truc à faire. Ok, on retient. quoi d'autre comme nouvelle chose ? Une scène combo, j'ai vu ?
Ouais.
On revient
sur un espace qu'on avait occupé en 2022 et non pas en 2023. Là, en 2022, on avait installé un combi à cet endroit-là. Et il y avait des DJ qui avaient un petit peu joué sur cet espace-là. Et là, on revient vraiment. Alors, on a changé le nom de combi en combo. Et on revient avec Une vraie proposition de scène, alors c'est une toute petite scène hein, bien sûr, mais avec une programmation live vraiment sur cet endroit là donc à chaque fois il y a, ça jouera en même temps que ce qu'on appelle la scène couchant et il y aura deux propositions par soir, donc le vendredi 7 et le samedi 8. Le vendredi 7 il y aura une artiste de musique électronique qui s'appelle Sab et également un artiste kényan qui est un performeur kényan qui fait de la pop futuriste qui s'appelle Kaboché. Et puis le samedi 8 on aura un musicien qui fait de l'électronica ambiante locale qui s'appelle Abran et un espèce de groupe hybride entre du post-punk et de la disco qui s'appelle Babies Berserk qui est un projet hollandais. Voilà.
Okay.
Donc une petite niche dans le festival, un coin un peu planqué, voilà, qu'il faudra aller trouver. Et encore une expérience, le fameux mot expérience qui revient, encore une expérience nouvelle pour le public pendant le festival.
J'ai entendu parler aussi de ce fameux village initiatique le dimanche. Est-ce que tu peux nous parler des différents ateliers et différentes collaborations qui se passent à ce moment-là ?
Ouais, alors le village initiatif, c'est un moment qu'on veut vraiment... pour mettre en avant le travail d'initiative, comme son nom l'indique, et de nos partenaires. Vraiment montrer aussi ce qui se passe sur Amiens en ce moment, et surtout en lien avec les engagements et les valeurs qu'on peut porter sur le festival. Je pense notamment à tout ce qui est mené en termes de développement durable, en termes d'égalité homme-femme, en termes d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Donc voilà, c'est tout ça qu'on veut montrer à travers ce village. Et donc on a des stands qui sont là un peu chaque année depuis le début, qui reviennent, et puis des nouveautés. Donc au final, ça représente entre 10 et 12 stands qui seront présents. Et il y aura d'ailleurs un plateau de Radio Campus Amiens sur cette journée du dimanche. et merci à Radio Campus de jouer le jeu et d'être avec nous. Ce sera aussi l'occasion, à l'occasion de ce moment, de dresser peut-être un premier bilan ensemble du festival dès le dimanche après-midi. Et voilà, autour d'un moment qui est très... très familial, très convivial. Les horaires, c'est 12h-18h. Donc, on est vraiment sur un truc en journée, un peu de lendemain de festival.
Une tranche bien chill.
Ouais, tout chill, avec un peu de musique, mais pas que. Il y a aussi des tranches horaires où on repose nos oreilles. Il y aura même un cours de pilates géant à l'ouverture du festival. Donc, voilà, on est vraiment dans le côté aussi un peu détox, entre guillemets, d'un lendemain de soirée tardive.
Depuis la première année de Minuit avant la nuit, toi personnellement, t'aimerais revoir ou voir quel artiste, quel type de musique sur la prochaine scène de Minuit avant la nuit ?
Quand on programme sur un festival, on ne programme pas forcément pour soi, hein, on programme pour des spectateurs.
Oui.
Et j'ai eu la chance déjà de programmer des choses quand même, malgré tout, tout en disant ça, qui me touchent et qui me plaisent personnellement. Je pense notamment au groupe belge qui s'appelle Balthazar, qui est venu en 2019, ou même encore le leader de ce même groupe qui s'appelle Warhouse, qui était venu l'an dernier. Donc voilà, chaque année il y a des belles choses, et pourquoi pas les faire revenir, d'ailleurs comme Eddie Depreto qui revient. Maintenant l'idée, comme je disais aussi tout à l'heure, c'est d'être dans une programmation très ancrée à chaque fois dans son temps, donc pas forcément être dans la redite du passé. Ça c'est pas quelque chose qui est privilégié pour moi, mais je vais toujours aller chercher plutôt des artistes qui ont vraiment des choses à raconter à l'instant T. C'est le cas, par exemple, d'une Zao de Sagazan qui est vraiment en plein boom et en plein buzz, et c'est vraiment l'année où il fallait la voir. Ou je pense aussi à Charlotte Cardin qui est là cette année, qui est une méga star en Amérique du Nord et là qui commence à conquérir l'Europe. On est très très content de la recevoir en 2024 sur Minuit avant la nuit. Voilà, ou encore Tiff qui est un jeune rappeur franco-algérien qui mélange de la musique rap avec de la musique shaabi ou même traditionnelle andalouse. Donc voilà, ça c'est des artistes qui me parlent. Et puis globalement je suis quand même très très satisfait de cette programmation. Voilà, c'est quelque chose que je trouve que le travail il a été il est plutôt abouti. Après, c'est les spectateurs qui en jugeront, dans le, forcément.
Forcément, oui.
Et on sera attentif, comme chaque année, au retour du public, voir si ça leur a plu, si on va dans la bonne direction. Mais en tout cas, entre l'idée de départ et la réalisation, je trouve qu'on est dans quelque chose d'assez cohérent et plutôt satisfait de cette programmation qui est présentée en 2024.
Est-ce que, pour terminer, tu peux nous rappeler un petit peu comment se tenir informé des événements, des tarifs, etc.
Ouais, alors donc le jeudi 6 à Amiens Cable Park est un temps qui est vraiment gratuit, on l'a évoqué tout à l'heure, donc tout chill, warm-up du festival, on écoute de la bedroom pop ou de l'indie rock avec un chouette coucher de soleil et en sirotant une petite bière ou un soft. Le dimanche est également une journée gratuite avec le village initiative, donc de midi à 18h en journée. Et donc les deux gros soirs sont le vendredi 7 juin et le samedi 8 juin avec 7 artistes le vendredi soir et 8 artistes le samedi avec vraiment les têtes d'affiche que sont Élie de Préto, Zao de Sagazan, DC's, L'Impératrice, Charlotte Cardin et tous les autres artistes plus middle ou même les artistes locaux. Car c'est important pour nous aussi de valoriser toute la scène locale et régionale. Les tarifs, les soirées sont accessibles à 33€ pour le billet un jour et 28€ pour en tarif réduit. Et le pass deux jours, il y en a encore à vendre. Donc on est à 53€ pour le pass deux jours en plein tarif et 45€ le pass deux jours en tarif réduit, qui est un tarif défiant toute concurrence quand on regarde les tarifications d'autres festivals et ce qui est pratiqué par ailleurs. Ce qui me permet de rebondir aussi sur la notion d'accessibilité qui est très importante pour nous, d'avoir une tarification accessible, des prix aussi sur place, à la fois sur les boissons et sur la restauration qui reste accessible, et puis de la gratuité, comme je l'ai dit, avec le jeudi et le dimanche.
Et quand est-ce que vous allez mettre un camping ?
Alors, on est partenaire avec le camping des Signes. Alors, on n'a pas de camping vraiment dédié au festival. On est partenaire avec le camping des Signes qui offre une tarification avantageuse pour les détenteurs du ticket du festival, donc à 6€ l'emplacement.
D'accord.
Vous présentez vraiment au camping des Signes, vous pouvez les appeler, faire votre réservation avant. Vous présentez en arrivant le ticket du festival et voilà, il y a le tarif spécifique. Et honnêtement, ça a plutôt bien fonctionné, on l'a mis en place l'an dernier. Alors, il n'y avait pas 2000 festivaliers au camping des Signes. De toute façon, ils ne pourraient pas accueillir autant de gens.
Non.
Mais c'est pas si loin. Le lieu, il est agréable. Encore une fois, entre RBO. Et voilà, c'est un partenariat qu'on a maintenant depuis 2-3 ans.
Ben merci à toi, Antoine.
Merci de l'invitation. Merci beaucoup.
Est-ce que tu as un petit mot à nous dire pour la fin ? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour cette cinquième édition du Festival Minuit avant les nuits ?
Non, on vous attend forcément nombreux. On a hâte, à moins d'un mois de l'événement. Ça devient vraiment très, très concret. Et puis voilà, envie de faire une belle fête, que tout le monde s'amuse avec aussi toute la bienveillance que l'événement souhaite véhiculer, un endroit où on se sent bien et libre de venir comme on veut et comme on est, et que voilà, tout le monde se sente bien dans un endroit qui est sympa comme le Parc Saint-Pierre. Voilà.
Ben merci Antoine.
Merci à vous.
C'était l'interview d'Antoine Grillon, directeur de la Lune des Pirates, venu nous parler du festival Minuit avant la nuit. Pour rappel, ce festival aura lieu du 6 au 9 juin aux Ortillonnages. Avant de conclure cette émission, je vous propose une interlude musicale avec le morceau Feel Good de Charlotte Cardin.
Y a ma main dans la fenêtre, titanique. Y a des choses que je comprendrai jamais, pyramide. Et j'ai pensé tomber contre toi, italique. J'entends toujours le son de ta voix qui m'invite, mon amour. Every time, j'y ai pensé mille fois. If you want me. conique. Plus y a de danger, plus je me sens à l'aise, ironique. Et j'ai pensé mourir avec toi, cyanide. J'entends toujours le son de ta voix qui m'invite, mon amour.
C'était le morceau Feel Good de Charlotte Cardin, qui est d'ailleurs programmé à minuit avant la nuit. Afin de terminer cette émission, je vous propose d'écouter le 4e épisode de la série L'électrostimulation est-elle du sport, réalisé par Colline Fauvet, étudiante en Master 2 de journalisme à l'UPJV. Merci pour votre écoute, à demain.
Bienvenue dans ce nouvel épisode sur l'EMS. Alors nous avons parlé de nutrition, des bénéfices et des avantages de l'électrostimulation, mais qu'en est-il des contre-indications à prendre en compte avant de se lancer dans cette pratique sportive ?
J'ai mes bras qui bougent,
voilà, c'est ça.
Et j'ai la cuisse qui brûle.
Vous savez ce que je suis en train de faire en ce moment ? Une séance de musculation.
Vous aussi, vous voyez passer des images d'athlètes avec des drôles de fils branchés partout sur le corps.
Qui m'enfile une combinaison pleine d'électrodes. Et c'est parti pour une séance d'exercice de 20 minutes.
On a mouillé le maillot, se mettre au courant cette semaine en s'essayant à une discipline prisée, l'électrostimulation.
Vous avez testé l'électrostimulation musculaire. Ça sert à quoi votre truc là ?
Marc Delporte, vous êtes coach sportif et vous travaillez avec l'EMS depuis 7 ans. Quelles sont ces contre-indications ?
Les contre-indications principales sont la grossesse, les implants actifs, c'est-à-dire par exemple pacemaker, etc. Donc ça, c'est bien sûr, c'est interdit de pratiquer de l'électrostimulation avec ce type d'appareil. On a aussi l'épilepsie, qui est une contre-indication formelle. Après, chaque individu est différent. Voilà. Et dès que vous avez le moindre souci de santé, il faut demander à votre médecin traitant si vous pouvez pratiquer l'activité en expliquant bien votre médecin ce que c'est. C'est-à-dire, voilà, je vais faire de l'électromyostimulation, on va mettre des patchs sur les principaux groupes musculaires qui vont envoyer un courant électrique pour contracter le muscle. Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que je peux, malgré telle pathologie, etc. Voilà. C'est le médecin traitant qui va vous donner le feu vert ou non. Donc ça, c'est très 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 important. De toute façon, avant n'importe quelle activité, on va dire qui sort de l'ordinaire, il faut demander l'avis de votre médecin.
Avec cette démocratisation de l'EMS, les appareils sont facilement accessibles par le grand public. Il est possible d'acheter des patchs sur Internet, par exemple. Donc comment faire pour alerter un maximum sur les dangers de l'électrostimulation sur les personnes fragiles ?
C'est vrai, c'est... Alors, y a plein... C'est vrai que nous là, depuis le début, on parle de l'électrostimulation telle que les professionnels l'utilisent, c'est-à-dire des combinaisons finalement avec, des pads sur tous les groupes musculaires, mais il existe plein de formes d'électrostimulation vendues aux particuliers. On parlait tout à l'heure de la ceinture Slenderton, mais il en existe plein d'autres, plein de marques différentes, et effectivement c'est en libre accès à des tarifs totalement différents, donc c'est accessible à tous. Et c'est important de se renseigner là-dessus, sur les contre-indications avant de pratiquer.
On note également un manque de confiance vis-à-vis des marques de MS. Il existe tellement de matériel et de prix différents que c'est facile de se faire arnaquer, non ?
Ah, ça c'est pas évident, c'est comme tout, dès qu'il y a quelque chose qui fonctionne, ça devient une jungle, c'est-à-dire qu'on a un nombre d'entreprises qui vont se mettre dans la course et puis essayer de faire leur produit. Ce qui me paraît le plus important en fait, c'est plutôt d'aller vers un professionnel qui a du matériel, que ce soit une salle de sport, que ce soit un coach à domicile comme moi, que ce soit un kiné, mais un professionnel qui va avoir le matériel va être beaucoup plus intéressant, parce que déjà il saura vous dire si c'est intéressant pour vous ou pas en fonction de vos objectifs, etc. Mais forcément il aura un matériel professionnel, donc même si ce n'est pas forcément gage de bonne qualité, en tout cas, vous avez plus de chances de ne pas vous faire arnaquer. Et ça va aussi vous éviter d'acheter un matériel parfois cher pour vous en servir pendant un mois et puis le mettre de côté.
On termine donc ce nouvel épisode sur l'électrostimulation en compagnie de Marc Delporte. Demain, c'est déjà le dernier et on va parler publicité, tendance et témoignages.